C'est agréable de prendre la parole quand on sait qu'on est dans le même esprit. Parce qu'on a eu deux messages, deux textes de l'apôtre Paul sur la course. Je vais vous parler d'un troisième texte. Il y en a un quatrième et un cinquième l'épître aux Hébreux. Et c'est curieux quand même, hein. Enfin, je sais qu'il y en a quelques-uns qui se préparent au semi-marathon de la braderie, un autre à un triathlon, et peut-être que c'est dans l'air du temps. Mais est-ce qu'il n'y a pas un message que le Seigneur veut nous donner ce matin particulier? Je voudrais vous inviter à prendre un texte dans 2 Pierre chapitre 1, versets 1 à 11. Je ne peux pas prendre ce texte en pensant à Hubert qui nous a fait une série d'exhortations sur ce passage. Et à chaque fois, voilà, maintenant, dès que je prends ce texte, je pense à toi, Hubert. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Et on répond Amen. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Vous savez, on ne s'aligne pas à une course de 21 km sans s'être entraîné un petit peu. Alors effectivement, dans certaines circonstances, on peut être amené à courir, à faire un tel effort, hein, parce que sa vie en dépend, et à courir jusqu'à l'épuisement. Mais quand on s'inscrit à une course, d'abord il faut s'inscrire à la course, c'est-à-dire se mettre au départ, prendre son dossard. Puis après, il y a un entraînement qui est nécessaire pour faire une telle course. Il faut s'équiper. On n'arrive pas là, les mains dans les poches, en tenue de ville. Ton dossard, je n'ai pas pris mon dossard. Vas-y, cours. Voilà. Non, c'est pas comme ça. On se prépare à cette course. L'apôtre Paul, et ça a été rappelé ce matin, parle de cette vie, pas la vie du monde, hein, la vie spirituelle, comme une course. Je ne sais pas si vous avez l'impression... Marie-Léna, elle me disait, j'ai l'impression de toujours courir. Mais en fait, c'est une réalité. Nous sommes dans une course. Et on a besoin, pour être dans cette course, d'entraînement. On dit que l'Église devrait être un lieu d'entraînement. C'est une salle de sport. Et un lieu où on s'entraîne, où on s'exerce, on met... On met en valeur nos capacités et on les développe les uns avec les autres. C'est ça l'Église. Ce serait ça. Et essayer de... Moi, je suis en train de faire là une exhortation. Et comme disait Patrick à Thaddée, une exhortation, c'est quoi? Ben c'est « Allez, vas-y, vas-y », et je le répète. Mais c'est un petit peu ça. On est là pour s'entraîner, s'exercer, s'encourager. Alors, si vous voulez faire une performance, vous pouvez finir la course 21 km, vous pouvez la finir. Mais si vous voulez faire une performance, là, ça demande de l'entraînement. Ça demande d'être bien équipé. Ça demande d'avoir un entraînement très spécifique. Pas, je fais ce que je veux, de toute façon, allez, je vais courir. Aujourd'hui, je fais 5 km, demain, j'en ferai. Non, vous allez vous blesser. Vous allez vous faire du mal, vous n'allez pas être prêt. Il y a un entraînement spécifique, il faut faire des fractionnés longs, des fractionnés courts, il faut faire des séries longues, il faut pas aller trop fort. Il faut pas aller trop fort, c'est comme ça l'entraînement. Alors il arrive parfois qu'on regarde le ministère de certains chrétiens et on se dit « Oh là là, là, là c'est florissant » et on se dit « Oh, moi aussi j'aimerais être utilisé par Dieu de cette manière. » Et en pensant justement que cette œuvre est de Dieu, et non pas de nous-mêmes, on dit, ben voilà l'œuvre de Dieu dans sa vie, oh là là, j'aimerais bien que Dieu m'utilise de cette manière. Oui, mais voilà, c'est des hommes entraînés, des hommes et des femmes entraînés. Quand je pense à l'apôtre Paul ou Pierre, je ne peux m'empêcher de penser que je suis loin du but. Paul, quand il prend la ligne de départ pour la course, il apprend pourquoi ? Pas pour finir seulement la course. Il prend pour gagner, pour remporter la victoire. Cette victoire, c'est la couronne. Il apprend pas pour aller, j'espère finir la course. Non, il sait il va la finir. Il sait, elle est déjà, on a dit, la victoire est déjà là. Mais il espère remporter cette victoire, arriver au but le premier, bien courir. Bien courir. Ces gens que Dieu utilise se sont entraînés durement. Paul dit, je traite durement mon corps. 1 Corinthiens chapitre 9, c'est le troisième passage. Je fais tout à cause de l'Évangile, verset 23, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Nous avons, le texte de Pierre nous dit que nous avons reçu en partage une foi du même prix que celle de l'apôtre Pierre, verset 1. La grâce, c'est la seule puissance pour accomplir l'œuvre de Jésus-Christ. C'est notre seule victoire. La seule victoire dans la vie d'un homme, la seule victoire dans la vie d'une femme, c'est la croix, la grâce que nous est offerte par Jésus-Christ. Et vous connaissez le prix de votre liberté, c'est le sang de Jésus-Christ, ce sang qui a été versé sur la croix. Alors on a du mal, parfois, à assimiler la grâce dans notre vie. Alors nous avons pourtant répondu à l'appel de Jésus-Christ. Nous avons reçu la vie nouvelle et nous l'avons manifestée en mourant avec Jésus-Christ dans l'eau du baptême et en ressuscitant avec lui pour une nouvelle vie. Que la grâce de la paix vous soit multipliée, nous dit Pierre. Quand il dit ça, ça veut dire que la grâce, qu'elle soit multipliée. Ça ne veut pas dire qu'on la reçoit d'un coup, boum, un grand coup, et puis voilà, on a reçu toute la grâce. Non. La grâce, c'est quelque chose qui se reçoit en plus ou moins grande abondance. C'est un peu curieux. Bon, on la reçoit, on est... Mais pour qu'elle œuvre dans la vie, on la reçoit de plus ou moins grande abondance. Et il semble que la grâce puisse être multipliée. Ça, c'est Pierre qui dit ça. Alors on dit, oui, mais Pierre, bon, peut-être qu'il pensait... Oui, mais l'apôtre Paul, il dit aussi que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et quand il dit ça, c'est pas pour dire plus il y a de péché, plus il y a de grâce. Non, c'est plus vous vous rendez compte du péché dans votre vie, plus il y a repentance et plus vous recevez de la grâce. C'est ça le message de l'apôtre Paul. C'est se rendre compte de la profondeur de son péché et ce sera la mesure de la grandeur de la grâce que nous allons recevoir en Jésus-Christ. C'est pas facile de recevoir et d'être plein de grâce. Mais il y a des personnes comme ça dans la parole de Dieu où on parle qu'ils sont pleins de grâce et d'esprit. Étienne, Marie, ouais, pleine de grâce. On parle aussi de Philippe, qui était les diacres, qui étaient pleins de grâce et d'esprit. Et comme s'il y avait quelque chose qui leur était donné par-dessus. Non, c'était des... Probablement, c'était des gens qui avaient une profonde conscience de ce qu'ils étaient sans Jésus-Christ et de ce qu'ils sont aujourd'hui avec Jésus-Christ. Du temps de Jésus, répondre à l'appel, quand Jésus disait « Viens et suis-moi », c'était au sens littéral. Hein. On laissait tous ses biens pour le suivre. On allait de par le monde annoncer la parole de Dieu. La question qui se pose à nous, c'est de savoir ce que l'appel de Jésus à le suivre peut signifier aujourd'hui pour un ouvrier, un coiffeur, un étudiant, un médecin, une mère de famille ou un retraité. La question de savoir si ce ne serait pas là une rupture trop insupportable qui pèserait sur notre existence. De suivre Jésus-Christ. Tout lâcher pour le suivre. C'est pas moins que ça l'appel auquel nous avons répondu. Quand nous sommes morts dans les eaux du baptême, on est mort à nous-mêmes, mort à toutes nos prétentions, mort à toutes nos ambitions terrestres pour adopter des ambitions célestes. Alors, moi je veux être honnête avec moi-même. Est-ce que tout est noyé là dans l'eau, avec Jésus-Christ? Par Jésus-Christ, oui, tout est noyé. Il a remporté déjà cette victoire. Mais est-ce que cette victoire est effective dans ma vie de tous les jours? C'est pas à moins que cela que Jésus m'appelle, à le suivre, à tout lâcher, tout laisser. Alors parfois, pour ne pas avoir à se poser la question, pour ne pas... peut-être heurter les gens autour de soi ou paraître trop radical ou encore trop intolérant, l'homme a trouvé ce que Dietrich Bonhoeffer appelle la grâce à bon marché. Alors la grâce à bon marché, bah oui, parce que la grâce, c'est quelque chose qui n'est pas tarifié. Elle ne coûte rien. La grâce, c'est gratuit. Grâce, gratuit. Par la nature même de la grâce, la facture, elle est déjà réglée. Et elle est réglée, non pas pour une seule facture, mais de manière définitive, pour toutes les factures. C'est déjà payé. Les dépenses qui ont été engagées pour payer cette facture sont infiniment grandes. Et on ne réalise pas la dépense que c'est que le sacrifice de Jésus-Christ pour notre vie. On ne la mesure pas. Je crois qu'on n'arrivera pas dans cette vie à mesurer suffisamment ce que cela représente pour nous, ce sacrifice. Mais un jour nous le serons, pleinement. Ce que cela veut dire, ce que cela signifie dans nos vies. Les dépenses qui ont été engagées donc pour payer cette facture, elles sont infiniment grandes. Et par conséquence, les possibilités d'utilisation et de dilapidation sont elles aussi infiniment grande. Ça, c'est la grâce à bon marché. La grâce à bon marché, c'est la justification du péché et non point du pécheur. En effet, la grâce fait tout toute seule. Tout n'a qu'à rester comme avant, finalement. Puisque je suis sauvé, ça ne change pas grand-chose dans ma vie, mais je suis sauvé pour la vie au-delà. Ma vie commencera quand je serai mort ou quand Jésus reviendra. Et n'est-il pas écrit que toutes nos œuvres sont vaines? La grâce au bon marché, c'est la prédication du pardon sans repentance. C'est le baptême sans discipline d'église. C'est une sainte scène sans confession des péchés. La grâce qui coûte, elle, c'est celle qui a de la valeur. C'est le trésor qui est caché dans un champ. Et à cause de lui, l'homme va vendre tout ce qu'il a pour obtenir ce trésor. C'est la perle de grand prix. Pour l'acquérir, le marchand abandonne tous ses biens. C'est le royaume de Dieu. À cause de lui, l'homme s'arrache un œil pour ne pas chuter. C'est l'appel de Jésus-Christ. Et en entendant cet appel, Pierre et les autres lâchent leur filet et le suivent. La grâce qui coûte. Et elle a coûté cher, cette grâce, parce que nous avons été rachetés à un grand prix, nous dit Paul en Corinthiens, chapitre 6, verset 20. Et c'est le sang du Christ qui nous lave. Et cette grâce a une grande valeur. Et elle nous invite à suivre Jésus-Christ comme enfant de Dieu, appartenant au royaume, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Pourtant, une question toute pratique se pose à nous. Qu'est-ce que je vais faire avec cette grâce? En quoi ça va changer ma vie? Alors, il y a un mot dans la Bible qu'on dit obéissance. C'est un mot qu'on pourrait parler de discipline. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de la course. C'est pour ça que Pierre, quand il parle, quand il invite dans sa lettre, il invite à ajouter, mettez tous vos efforts, appliquez-vous à affermir votre vocation, votre élection. C'est du travail, c'est du travail. L'obéissance. Si la foi arrive dans votre vie, alors vient l'obéissance. Alors, quand est-ce qu'on doit commencer à obéir? La foi est la démonstration des choses qu'on espère. Il y avait Richard qui emploie souvent cette image de la foi comme un mur sur lequel on s'appuie. C'est-à-dire que plus on va s'appuyer sur le mur, plus on va se rendre compte qu'il est là. Plus on va se reposer notre vie sur notre foi, plus on va se rendre compte que cette foi est là et elle va grandir. On va se rendre compte que ce mur est fort et puissant. Et on peut reposer toute notre existence, toutes nos espérances, toutes nos ambitions célestes du royaume sur ce mur-là. Mais il nous est nécessaire de faire le premier pas. Le premier pas est d'obéir pour que la foi ne devienne pas une pieuse façon de s'abuser soi-même. Je crois en Dieu, oui, mais les démons aussi croient. Et ils tremblent. Mettez en œuvre votre salut, nous dit l'apôtre Paul. Mettez à l'œuvre votre salut. C'est pas que le salut, on l'a obtenu, mais allez, mettez-le en œuvre, faites-le agir. Mettez en œuvre la grâce. Et les exemples sont nombreux dans les Écritures où Dieu demande, pour que le miracle s'accomplisse, que le sujet se mette dans une situation de pouvoir croire. Il nous fait faire le premier pas. Dans Naaman, pour qu'il soit guéri de sa lèpre. Il doit se tremper 7 fois dans le Jourdain, une rivière qui lui semblait beaucoup plus sale que les belles rivières qu'il avait dans son pays. La bataille du peuple d'Israël contre les Ammonites dans le désert. Il doit lever les bras pour que la bataille, à chaque fois que les bras se baissaient, eh ben, il perdait la victoire. Non, il doit lever les bras. La prise de Jéricho, ils doivent tourner autour de la ville pendant 7 jours et le 7e jour, 7 fois pour que les murs s'écroulent. Ce premier pas devait conduire Pierre loin de ses filets et de sa barque. Et ce premier pas aurait dû conduire l'homme riche, le jeune homme riche, loin de ses richesses. Mais il est parti tout triste. Faites tous vos efforts. Il s'agit donc d'obéissance. Il s'agit de discipline. C'est-à-dire, la discipline, c'est quoi? C'est une mise en pratique. Vous savez, discipline, il y a un mot disciple. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Un chrétien, je voudrais être dans mon cœur. On n'a pas ce chant-là, mais à chaque fois que je pense à ce chant, ça m'émeut beaucoup. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété nous a été donné par la puissance de la grâce, nous dit Pierre au verset 3. Et cela s'acquiert par la connaissance de Dieu. Est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous avez vraiment envie de le connaître? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour connaître Dieu plus, pour vivre avec lui, si vous voulez remporter la victoire, faire une belle course? Non pas une connaissance intellectuelle, car ben, la connaissance intellectuelle, ça laisse stérile. Vous pouvez connaître la Bible par cœur et que ça vous laisse stérile. Non, une connaissance pratique de mise en œuvre des vertus de notre nouvelle nature. Mettez en œuvre votre salut. À cause de cela même, faites tous vos efforts, verset 5, pour joindre à votre foi la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amitié fraternelle l'amour. Alors, je ne vais pas vous parler de toutes ces choses, ce sont des choses qui se suivent, des vertus, des qualificatifs qui se suivent dans la vie du chrétien, c'est continu. Mais je voudrais vous parler de choses concrètes. Ouais, mais comment on fait ça? Comment on fait tout? Je veux bien mettre tous mes efforts, mais comment je dois m'entraîner? Comment ça se passe si je veux remporter la course? Si je veux faire une belle course? Je m'étais acheté un ordinateur. La première fois que j'ai eu un ordinateur, c'était pour écrire ma thèse. Donc je m'en servais comme traitement de texte. Et en fait, même comme traitement de texte, je ne savais même pas l'utiliser. Donc cet ordinateur est resté là, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment un exemple. 3-4 mois, là, tout installé, branché, tout prêt à fonctionner. Et donc j'avais un ordinateur à la maison, mais j'étais incapable de me mettre dessus pour le faire fonctionner. Il s'allumait et tout. J'allais sur le traitement de texte, je ne savais pas faire des copier-coller parce que je n'avais pas lu la notice. Je n'avais pas pris le temps de lire la notice, donc l'ordinateur était là. Et en fait, je n'avais pas pris le temps de m'asseoir et de prendre le temps. Prendre le temps de voir comment ça fonctionne. J'étais trop pris dans les choses. Alors j'écrivais à la main. C'est bien aussi, mais bon. Il faut se laisser conduire par Dieu. Je vais finir par quelques petites idées. Laissez conduire par Dieu. Laissez-vous conduire par Dieu. Comment vous laissez conduire par Dieu? Pratiquement dans votre vie de tous les jours. Comment vous faites pour vous laisser conduire par Dieu? La prière. La lecture de la Bible. écouter la vérité dans sa vie, là, sa conscience renouvelée. Écouter les frères et sœurs dans l'Église, tout à fait. Donc on sait, hein, on sait comment ça marche, on sait. L'ordinateur est là. Oswald Chambers, un écrivain qui a écrit ce petit livre, hein, les six disciplines de la vie chrétienne. J'avais l'intention de vous parler de cela, mais en fait, finalement, j'aurais pas le temps. Et il parle donc de se laisser conduire par Dieu. Pour se laisser conduire par Dieu, il faut être comme un petit enfant qui se laisse conduire par ses parents et qui tient la main pour traverser la route. Qui a peur, certes, mais quand il tient la main de son père, il a peur de rien. Peur de rien. Et alors, quand il est dans ses bras, alors là, plus rien ne peut lui arriver. Et c'est ça, se laisser conduire par Dieu. Puis la deuxième chose, c'est la discipline de la souffrance. Parce que cette vie n'est pas facile. Et quand survient les tourments, quand survient les difficultés, et on se dit, oh, je veux être fidèle au Seigneur. Oui, mais regarde tout ce qui m'arrive. J'essaie de faire le bien, et c'est le mal qui arrive. C'est ça, la discipline de la souffrance. C'est quand cette souffrance-là est là pour nous apprendre. C'est injuste, certes. Mais nous sommes dans les bras de notre Père. Et on va apprendre quelque chose de cela. C'est la discipline de la souffrance. Mais cette discipline, elle vient aussi de traiter durement son corps. C'est une certaine souffrance que d'obéir au Seigneur. Le Seigneur nous promet, quand ses apôtres s'inquiétaient, « Mais Seigneur, nous on n'a pas abandonné père, enfin on n'a pas abandonné famille et maison pour te suivre. » Et c'est juste après l'histoire du jeune homme riche. Et qui voit ce jeune homme qui est très bien, hein, sous tous ses aspects, et que va-t-il advenir de nous? Et Jésus dit, ben, vous aurez des centaines de frères et de sœurs, ah, ils sont contents, et des persécutions. Mais c'est dit par Jésus comme une bénédiction, comme heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera à cause de mon nom, heureux serez-vous. Ça, c'est la discipline de la souffrance, la discipline du danger. Ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur parce qu'on est avec Jésus-Christ. Ne pas avoir peur d'annoncer la parole de Jésus-Christ, de mettre en œuvre notre salut. Ne pas avoir peur de nous montrer tels que nous sommes vraiment, même avec nos défauts. Pas avoir peur. Parce que c'est à travers de nos faiblesses que Dieu se manifeste. Et est fort, et puissant. Et c'est à travers nos faiblesses que le monde verra qui est Dieu. La discipline de la prière, on en a parlé, si Jésus passait des nuits de prière, est-ce que quelqu'un ici dans cette assemblée pense prier suffisamment? Non, on a tous des efforts à faire là-dessus. On doit tous travailler là-dessus, sur cette prière, passer du temps à demander, à louer, à se laisser faire. Il parle de cinquième discipline, la discipline de la solitude. Mais c'est cette discipline où c'est prendre un temps tout seul avec Dieu. On est pris dans les tourments tout le temps, tout le temps, tout le temps à faire des choses. Je cours, je ne sais plus où mettre la tête, j'ai tellement de choses à faire, j'ai plus de temps pour moi. Prendre un temps de solitude, de méditation. Même si c'est parce qu'on a peur, comme Ésaïe, comme le prophète Élie, dans le désert. Il a peur, il s'isole, il se cache, mais c'est son moment de solitude. Et dans ce moment de solitude, il se tourne vers Dieu, et Dieu s'adresse à lui et se révèle pleinement à lui. Discipline de la solitude. Et la dernière, c'est la discipline de la patience. Et ça, je vous invite à lire Hébreux 11. Ceux qui ont persévéré dans la patience, qui n'ont pas vu ce qu'ils attendaient. Ils n'ont pas vu ce en quoi ils avaient mis tout leur espoir. Et pourtant, ils ont été persécutés. Ils ont attendu avec patience. Alors vous me dites, oh là là, quel programme. Vous savez, il ne faut pas y aller trop fort. C'est pas avec nos propres forces. Il faut se mettre en disposition. Dire, je me tiens là, Seigneur. Je me tiens là, je veux rentrer dans ton royaume. Je vous encourage à prier cette semaine, à prendre du temps seul, à ouvrir votre Bible, à lire, à la méditer, à vous laisser faire, à essayer d'annoncer l'évangile à quelqu'un pour lequel vous avez renoncé à le faire parce que vous aviez peur, à vous exposer. Des petites choses. L'entraînement, ça commence tout doucement. Hein, faut pas se blesser. Et faut pas compter sur ses propres forces. Faut compter sur le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous aider à faire ces choses-là, à les vivre dans votre vie. Et peut-être que vous vous dites, tout est foutu de toute manière. Jamais rien foutu de ma vie. De toute façon, entendre une exhortation comme ça, ça me met au ras des pâquerettes parce que j'en suis bien, 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 bien loin et j'y arriverai jamais. Il y a un homme qui a un film, mon film préféré, un de mes films préférés, c'est La vie est belle, pas celui de Bellini, mais celui de Frank Capra. Et c'est un homme qui est sur un pont et le film commence, on voit les étoiles et des prières qui montent vers les étoiles, pour un homme. C'est la nuit de Noël et cet homme est sur le pont et il est prêt à se jeter dans le fleuve glacé pour se suicider en disant « ma vie elle est pourrie ». Et il y a un ange qui lui apparaît, qui est envoyé par Dieu, et lui jette le gars lui dit « mais de toute manière, j'aurais mieux fait de ne pas être venu au monde ». Et puis l'ange dit « ben qu'il en soit ainsi ». Et il rentre dans cette ville, et on voit toute sa vie, toute cette ville, sans lui, sans sa présence. Et tout à coup, il se voit cet homme. Il voit sa vie et tout ce qu'il a pu transformer, tout ce que Dieu a pu transformer dans sa vie, à travers juste son existence, sa présence, à travers quelques billets qu'il a donnés, à travers un sourire qu'il a pu donner à quelqu'un. Parce que c'est Dieu qui accomplit les œuvres de nos vies. Mais il faut pour cela le laisser faire et s'exposer. Et on n'y voit pas toujours bien clair dans nos existences, dans cette existence, on se dit, j'ai pas réussi avec mes enfants. Mes enfants sont loin du Seigneur. Mais qui sait? Le livre n'est pas fermé. On se dit, j'ai pas réussi dans mon couple. Ça s'est brisé, mais qui sait? Le Seigneur peut en faire quelque chose. Sachez que vos vies ont des témoins. Ce sont ceux qui les ont croisés. Vos vies ont des témoins, ce sont vos frères et sœurs dans l'Église. C'est ce monde qui est le témoin de vos existences. Paul nous dit aux Colossiens et nous dit ce matin, Colossiens chapitre 3, ce sera la conclusion. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et j'ai espoir que quand le Christ viendra nous chercher, quand nous le rejoindrons, là on verra ce que nous sommes vraiment en Christ. Et on pourra voir toute l'œuvre que Christ a pu faire dans nos vies à notre insu. Et la plupart du temps, il le fait à notre insu, pour pas qu'on s'enorgueillisse trop, de croire que c'est nous qui l'avons fait par nos propres forces. Au travail, le jour approche, jour de lumière pour les saints. Quitte tes vêtements de tristesse et mets ton armure de lumière. La lutte est bientôt finie et nos labeurs d'ici-bas, nous n'allons pas vers la nuit mais vers le jour. Au travail donc, le jour est proche, il n'est plus temps de soupirer. Que les mains découragées saisissent la harpe, qu'on tresse des couronnes de laurier pour le front du vainqueur. Voici que point de la lumière du matin, Le jour va bientôt se lever, fini l'épouvante des ombres de la nuit. Notre Seigneur Jésus est proche. Amen.